Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette table ronde. Nous sommes un petit peu en retard, nous attendons Chris Foss qui devrait se joindre à nous pour parler de l'œuvre que je qualifierais de magistrale, d'un peintre que je crois que tout le monde connaît sur, au travers de ces images que l'on a pu voir à peu près sur tous les supports existants, c'est-à-dire Hans Rudi Giger, le créateur d'Alien, le père de ce monstre hybride. On va avoir une petite photo normalement. Bon, le temps de s'équiper. Donc Hans Rudi Giger nous a quittés cette année. Il nous a quittés le 12 mai, malheureusement, d'un accident domestique, je dirais. Il aurait pu, je pense, encore nous livrer quelques belles images et quelques créations encore de son cru. Toujours surprenante, toujours proche des images les plus connues, à savoir son travail à l'aérographe. Donc on va parler un petit peu de cette période. On va essayer de comprendre pourquoi, au travers de l'art d'un seul, une seule personne, un seul individu, pourquoi, je dirais presque, cette fin de siècle a été marquée à ce point par son travail, par sa technique, par, je dirais, la beauté terrifiante de ces créatures. Donc nous accueillons pour cela donc K.W. Jeter et Patrick Giger, donc directeur du lieu unique, un lieu improbable à côté de la Cité des Congrès, et ancien donc directeur du Musée de la Science-Fiction en Suisse, à Yverdon-les-Bains. Et si mes souvenirs sont bons, le premier lieu à avoir exposé les œuvres de Hans Rudi Giger en Suisse, avant que Hans Rudi lui-même ne puisse acquérir une partie du château de Gruyère pour en faire son propre musée. Donc bonjour messieurs.
Bonjour monsieur Francescano.
Donc Hans Rudi Giger, il a un parcours de peintre au départ assez conventionnel, même si il a tout de suite commencé à s'emparer d'un univers fantastique issu des années 60, issu de la peur atomique presque. Donc là, on rejoint peut-être les goûts littéraires de monsieur Jeter. Il s'est rapidement mis à l'aérographe, et ce que l'on peut dire, je pense, en termes de technique et en termes de rendu graphique, c'est que l'aérographe lui a permis de se connecter directement à son imagination, puisqu'il le disait lui-même que c'était un outil qui lui permettait de faire naître ces images directement du nuage d'encre qu'il utilisait au tout départ, même s'il a commencé ensuite au départ par des images. On va faire défiler quelques images pour voir son travail. Il a commencé avec, par exemple, des grands panneaux de cartes à gratter ou de papier qu'il enduisait d'encre de Chine ensuite pour gratter. Donc il a fait des séries qu'il a appelées labyrinthe autour des années de ses 20 ans, je dirais. Et ensuite, il a donc connu cet appareil, donc l'aérographe, un petit pistolet à peinture qui lui a permis de travailler directement les travaux les plus connus que l'on a connus de son art. On a pu le voir au travers de tableaux restés célèbres qui représentaient souvent ses propres femmes et ses propres épouses. Il y a des images très célèbres qui circulent. Malheureusement, il s'est interrompu en travaillant sur deux gros projets. Bon, le dernier projet, c'était une scénographie pour Mylène Farmer. Il avait fait la tournée précédente, et il avait aussi, depuis quelques années, il avait envie de faire un recueil qui devait s'appeler Giger Under Your Skin, parce que depuis effectivement une quinzaine d'années, on s'est tous aperçu que le monde du tatouage s'est emparé de l'univers de Giger, de ses créatures, de ce côté biomécanique, et c'est vraiment devenu un des créateurs les plus populaires au monde, tout en étant extrêmement particulier. Donc messieurs, je voulais en premier vous demander un petit peu votre rapport à l'œuvre de Giger. Déjà, et les premières impressions que vous aviez eues quand vous avez découvert son travail, et dans quelles circonstances? Patrick, par exemple?
Alors, moi, j'ai découvert son travail bien plus tard que le moment qu'il l'a réalisé, évidemment, puisque voilà, je suis peut-être un peu jeune pour avoir découvert les premières œuvres de Giger, qu'il a commencé à faire déjà à l'âge de 16 ou 17 ans. Mais je l'ai fréquenté assez rapidement à partir des années, assez tardivement en fait, à partir des années 90, lorsque je me suis occupé du musée de la science-fiction en Suisse. Donc la relation a été plutôt professionnelle. Il faut savoir qu'il a, en Suisse, et, à mon accent, vous entendez que je suis helvète, sans doute. Il avait quand même un rapport avec ce pays qui était très très particulier, puisque il faut savoir que avant d'être un peintre fantastique et quelqu'un de récupéré par le milieu du métal, du tatouage, de la science-fiction, etc., Giger a été un artiste contemporain. Tout à fait respecté, respectable, dont les œuvres ont été acquises par les grands musées, et que ce n'est que lorsqu'il a fait Alien et qu'il a reçu l'Oscar qu'il a été perçu comme une espèce de vendu, si on veut, à Hollywood. Et c'est là où il s'est marginalisé, non pas tellement avec son travail, même s'il est très étrange, vous le voyez ici, et parfois assez perturbant, mais dans le rapport, on va dire, plutôt financier, tel qu'il a été perçu à ce moment-là en Suisse, et le rapport au succès. Donc moi, lorsque je l'ai rencontré, il était déjà très désabusé par rapport à l'accueil que lui faisaient les musées traditionnels en Suisse, qu'il avait et même dans le monde, hein, qu'il avait exposé fréquemment, jusqu'à ce qu'il devienne une espèce de star à la fois à Hollywood et ensuite sur les pochettes de disques, puisque Debbie Harry, Emerson, Lake & Palmer, d'autres groupes ont fait appel à lui. Et c'est là où en fait il est devenu extrêmement célèbre. Et ce qui m'intéresse chez lui et ce qui lui a porté préjudice vraiment, c'est le fait que son œuvre soit devenue omniprésente, à la fois dans le jeu vidéo et dans un environnement d'imaginaire, d'image mentale, si on veut, que l'on retrouve un peu partout. Et ça lui a vraiment porté préjudice, puisque il a été rendu d'une certaine manière kitsch, au sens premier du terme, à la fois décalé et impertinent en quelque sorte. Et ça me semble assez symptomatique, le fait qu'il a été exposé en France presque exclusivement ou principalement dans une grande rétrospective en 2005 à la Halle Saint-Pierre, qui est un lieu destiné plutôt aux artistes singuliers, outsiders, les artistes bruts, voire les artistes malades mentaux. Et évidemment, il n'y a pas eu d'exposition à Charles Giger dans un grand musée des Beaux-Arts ici.
Alors, à t'écouter, on a quand même l'impression effectivement qu'il a vécu, malgré le succès, il a vécu dans une frustration presque permanente, en souhaitant être plus grand que ça, quoi, finalement, alors que son œuvre, disons, s'est répandue d'une manière extraordinaire et aurait pu le contenter. Mais en fait, l'art contemporain restait pour lui une frustration.
Je ne sais pas s'il était frustré, mais en tout cas, il était désabusé à la fois par l'art contemporain et par le milieu hollywoodien qui l'a complètement grugé, hein, puisque financièrement, il s'en est assez mal sorti. En fait, si vous aviez vu, quand il est sorti le film Aliens, donc le second de la série, il n'était même plus crédité. Il m'a raconté que lorsqu'il est arrivé aux États-Unis pour faire le premier film de Alien de Ridley Scott, son contrat a été renégocié sans qu'il soit au courant, donc il a dû re-signer un contrat, ou alors il aurait dû repartir en Suisse. Donc financièrement, il n'avait plus les droits sur ses créations, donc c'était quand même très compliqué pour lui. Donc il vivait en espèce d'ermite comme ça, détaché du milieu de l'art contemporain, détaché du milieu où il y a la culture, des financements dans la culture populaire, qui est le milieu du cinéma, et ne venaient chez lui que les gens qui sont un peu à la marge. Mais il y a beaucoup de gens à la marge, heureusement, et il y avait beaucoup de gens qui venaient chez lui. Lorsqu'on était chez lui, il y avait tout le temps du passage, des gens du milieu justement du tatouage, comme tu l'as dit, des gens du milieu de la musique, principalement de la musique métal, mais également la musique expérimentale, des peintres. Il y avait une espèce de salon comme ça permanent de gens qui venaient se faire recevoir une espèce de bénédiction de sa part, comme s'il avait pris une espèce de forme de figure hiératique, une espèce de pape comme ça, à la fois des milieux underground, un peu alternatifs, mais également de ce qui est à la limite du bon goût. Donc quand on arrivait chez lui, déjà cet environnement, j'en parle un peu ici parce que voilà, l'œuvre de Giger est indissociable d'une certaine manière de sa personne. Quand on arrivait chez lui, eh bien tout était peint avec son œuvre. Sur la porte des toilettes, il y avait la porte des toilettes était peinte de motifs complètement bizarres, inspirés de Aleister Crowley et de l'ésotérisme du début du XXe siècle. Il y avait des têtes de mort super étranges partout. Au milieu traînait son Oscar. Voilà. Et malgré cette atmosphère très pesante, dans un premier temps, il y avait une forme de bienveillance de sa part. Et lui, c'était l'inverse de cet environnement très sombre. C'était quelqu'un, non pas de jovial, quelqu'un d'assez torturé, mais quelqu'un d'une extrême gentillesse.
Lorsque tu décris un petit peu son environnement immédiat, j'ai l'impression que je revois un petit peu les photos presque de la résidence de Chris Foss, que je salue. Je sais que, Chris, tu partages avec Hans-Rudi Giger l'amour pour les trains, l'amour pour le ferroviaire.
Ah oui, je crois que j'ai jamais vu, mais quelqu'un m'a dit qu'il a un petit chemin de fer chez lui aussi. J'étais très jalouse, mais je crois que mon train, c'est plus grand que celui-ci. Voilà, j'espère.
Alors, au-delà du train, je sais que tu as travaillé avec lui sur des projets cinématographiques.
Oui.
Il y a eu le Dune donc, de Jodorowsky qui nous a réunis sur ce projet-là.
Oui.
Est-ce que tu as pu le croiser dans d'autres types de productions? Et quel était ton rapport, par exemple, à l'œuvre de Giger? Vous avez deux univers complètement différents, mais en même temps, j'ai l'impression que vous avez quand même la même manière d'appréhender les choses, c'est-à-dire une boulimie de travail.
Oui.
Vraiment, beaucoup, beaucoup, vous fournissez... Autant Hans-Rudi Giger que toi, vous fournissez quand même énormément de travail. J'ai l'impression que c'est à toute heure de la journée, quel que soit le fait qu'il y ait ou pas une commande, en fait. Et donc, quel était ton rapport à son travail, qui est quand même foncièrement différent esthétiquement du tien? Et comment, par exemple, quand vous vous êtes retrouvé sur le projet Dune, comment est-ce que ça s'est passé et comment vos univers ont pu cohabiter?
J'ai fait la connaissance de Giger avant Dune, parce que nous étions représentés par la même galerie à Paris. Et des fois, juste par hasard, il était là à la même tombe que moi.
La galerie Bijana.
Galerie Bijana Lam, qui représente Giga, et il me représente aussi. Et des fois, juste par hasard, j'étais là, et Giga est venu aussi. Et on reste ensemble, on a parlé un petit peu, on a discuté des projets, des trucs comme ça. Et après, il a devenu un petit peu plus sérieux parce que nous sommes les deux pris par Fox pour faire Alien. Et au centre, c'est Dan O'Bannon. C'était Dan O'Bannon qui, heureusement, s'est très fier pour notre boulot. Et Giga, il n'est pas venu aux États-Unis. Il a resté en Suisse. Et moi, j'étais installé à Los Angeles, mais j'ai vu les trucs qui ont sorti. Mais bien sûr, Alien, c'est un immense succès. Grâce à Giga, sans la bête, c'est impossible d'imaginer qui peut se passer. C'est peut-être un petit film perdu. C'est la bête de Giga qui, bien sûr, donne tout le goût de Alien. Et c'était un petit tournage au début. C'était une histoire un petit peu intéressante. C'est Jodorowsky qui m'a trouvé pour travailler sur Dune et il a trouvé Giga aussi. Et c'est à cause de ça que l'équipe est déjà inventée, qui ont fait un travail sur Alien. Mais Giga, il n'a jamais fait les bêtes pour Jodorowsky. Je crois qu'il a fait que les designs pour le décor, les trucs comme ça. Mais bien sûr, c'était lui qui s'occupe avec les bêtes par le temps qu'on arrive. Et je crois que c'est Dan qui a proposé que c'est Giga qui fait la bête. Et c'était parce que Dan, il était un génius, si vous voulez, un petit génius. Et c'était son goût. Et grâce à ça, c'est Giga qui a fait l'Elia. Et comme j'ai déjà dit, sans la participation de Giga, c'est impossible d'imaginer qu'Elia peut être une grande affaire. Et bien sûr, vous avez la suite des tournages, vous avez un montant fou des tournages, et toujours, c'est double de la bête, plusieurs des fois.
Et si je me souviens bien, les productions même du Dune de Jodorowsky et de l'Alien s'étaient chevauchées au niveau des dates, puisque c'est comme ça que le Necronomicon, le premier livre de Giger, s'est retrouvé dans les mains de Salvador Dali, qui devait jouer le baron Harkonnen.
Voilà. Si vous voulez, on peut suivre le même goût qu'ici. Nous étions les enfants de Jodorowsky, si vous voulez. Voilà. C'était Jodorowsky qui a trouvé les gens. Et après ça, nous sommes jetés dans l'espace, mais des fois, nous venons ensemble encore. Et voilà. Et la bête, c'est incroyable. Mais Giga, il a déjà sorti quelques dessins. Je suis bien chez Bijanalam, des fois, et il a me montré quelques dessins. Et malheureusement, j'ai vendu ce truc-là. Il a me donné une grande affiche sur son boulot. Et moi, j'ai le signé. Il a le signé aussi. Et j'ai perdu cette affiche-là. Mais je suis bien. Il a déjà commencé les dessins sur une bête qui approche un petit peu la même image que la bête qui enfin a sorti.
Et le rapport à l'époque, il travaillait uniquement avec effectivement l'aérographe donc, et l'encre noire. Tu parlais de Bijanalam qui lui a ensuite fait découvrir l'arrivée du pochoir, puisque je sais que la série des tableaux de New York, par exemple, qui est une série quand même les plus abstraites qu'il ait pu faire, et beaucoup plus proche d'ailleurs de l'art contemporain, je dirais, que de l'art figuratif, est arrivée dans son travail simplement grâce à la découverte de pochoirs industriels qu'il a pu utiliser dans son travail. Et cet aspect biomécanique, en fait, cet aspect biomécanique est arrivé, d'après toi, par rapport à la jonction des deux, ou est-ce qu'il avait déjà cet aspect-là dans la production de Alien, par exemple, qui était quand même une de ses premières créatures, finalement?
Je crois en principe c'était une très bonne ambiance entre nous, parce qu'il a une technique, le contraire de moi. Depuis cette époque-là, je travaille toujours avec l'acrylique, toujours sur une espèce de carton, et toujours avec l'aérographe un petit peu. Mais Giga, il a une technique très, très particulière. Il a travaillé, je crois, si je me souviens bien, il travaille, comment s'appelle le matériel pour les bougies? Wax. Hein? La cire, voilà. Il a une technique, c'est un petit peu bizarre, il met la cire sur une surface, après il passe avec les couches de peinture, et après il enlève la peinture avec une brosse. J'ai jamais lui vu en train de travailler, mais on a parlé un petit peu sur ça, et j'ai examiné le tableau chez Bijan, et c'était une technique unique. J'ai jamais vu une technique comme ça avant, et c'était complètement particulier de Giga.
Alors en termes de juste pour finir sur l'aspect peut-être travail au niveau de production cinématographique, Giger travaille sur des très grands formats, il travaille longtemps sur les images. Comment il a pu s'adapter au délai, je dirais, de production au cinéma, lorsqu'on le voit par exemple sur certaines photos dans son album Alien, par exemple, quand on le voit travailler sur place dans les studios en train de faire l'aérographe sur les œufs d'Alien, par exemple, ou sur la créature elle-même, normalement cette partie du travail ne devrait pas lui revenir. Il est dans la conception et pas forcément dans l'exécution ensuite sur la prothèse elle-même, par exemple.
Non, c'est une situation que je suis bien, très très bien. Quand ils ont décidé de faire le tournage, quand ils ont commencé de travailler, toute la production a changé en Angleterre. Et j'ai venu des fois, c'était un été très, très chaud. Et Giga, il travaille que avec la viande, la vraie viande, pour faire c'était étonnant. Dans ce tournage-là, c'est la vraie viande. Il a acheté un montant fou, des tonnes de viande, vraie viande.
Avec les ossements.
Et personne peut lui approcher, personne peut approcher le studio. Tous les techniciens, ils ont, par exemple, vous avez un grand studio comme ici, et le goût, c'est terrible. Et Giga, il est juste comme ça. Il est juste toujours habillé comme ça, tu vois, avec une veste, avec tout. C'était peut-être 30 degrés, et la viande, c'est comme les cadavres, si vous voulez. Il travaille avec les mains comme ça, et personne refuse de venir là-bas. Mais c'est à cause de ça. Vous pouvez voir dans le tournage, quand vous avez la bête qui bouge avec les trucs qui tombent, c'est de vraie viande, voilà.
Il faut peut-être aussi mentionner qu'en fait, le film Alien et la créature, c'est pas la première créature, de loin pas, qu'il ait fait pour le cinéma. En fait, il a commencé à la fin des années 60 sur un film qui est l'un des trois courts-métrages d'un projet qui s'appelle Swiss Made, qui parle de l'histoire de la Suisse. Et là-dedans, il y a un film qui s'appelle 2069 et qui imagine un futur où la Suisse s'est barricadée, si on veut, du reste de l'Europe. Et un extraterrestre dont Giger a fait le dessin et le costume, justement, sur lequel il a très longuement travaillé, qu'il a fait lui-même toute la conception, arrive en Suisse et enregistre. C'est une espèce de narrateur et d'enregistreur comme ça, détaché. Et c'est un type simplement avec une tête de caméra, donc qui a la même forme que l'alien, mais en fait qui est une caméra et qui a une espèce d'enregistreur à bande sur le thorax. C'est une créature assez particulière qui aujourd'hui est au musée Giger, au château Saint-Germain à Gruyère. Et c'est comme ça, en fait, c'est aussi à travers ce premier projet qui est resté assez peu diffusé, en fait, qu'il a été aussi remarqué dans le milieu cinématographique. Donc il avait déjà aussi une petite forme d'activité, un peu de travail sur des choses comme ça. Il avait aussi fait des décors de théâtre, il avait fait aussi un peu de la performance. C'était quand même un personnage qui était... Il ne faut pas qu'on l'imagine qu'il était particulièrement isolé, etc. Il était quand même une personnalité plutôt, à ce moment-là, en prise, si on veut, avec son environnement.
Si je me souviens bien, effectivement, on n'a pas de photo là, du costume dont tu parles. Il avait même, je crois, costumé le chien, quoi, en fait, hein, parce qu'il y a,
oui,
une créature,
il y a aussi un chien qui est le même style. Ouais.
Et là, quand tu parles de cette histoire d'extraterrestre qui vient filmer la Suisse de cette manière-là, moi, j'ai presque l'impression que c'est la vie elle-même de Giger par rapport à la Suisse, qu'il était d'une manière prémonitoire en train de mettre en scène. Comment est-ce qu'il a été, disons, comment son œuvre était finalement accueillie en Suisse, puisque tu parles de la Suisse petit à petit, fur et à mesure de ses succès et de ses projets, toujours
plutôt mieux que dans d'autres endroits, puisque, mais ça a été largement dû à son propre initiative. C'est-à-dire que lorsqu'il a fait une grande exposition au milieu des années 90 au château de Gruyère. Gruyère, c'est une ville très pittoresque en Suisse, dans les montagnes fribourgeoises. Voilà, c'est un endroit, on va dire, plutôt patrimonial et touristique. Il y a eu une grande exposition d'art fantastique en 95. Je crois, suite à ce succès, il a acheté un petit château qui était juste à côté et il a décidé de s'en faire son projet de musée personnel. Et il a commencé à racheter ses propres œuvres, en fait, aux collectionneurs. Et ça a pris beaucoup de temps, mais il a ouvert ce musée en 99, je crois, 98-99. Et il a continué toutes les 10 dernières années de sa vie, en tout cas aux 15 dernières années, à racheter ses propres œuvres. Donc, il y a eu une acceptation, mais il y a eu aussi une forme de méfiance. Et en 1995, lorsqu'il y a eu une exposition Giger à la maison d'ailleurs en Suisse, un musée dont je m'occupais, mais pas à cette époque-là, il y a eu une sculpture qui était à l'extérieur du musée, une sculpture assez célèbre d'une femme nue avec des seins en pointe, un visage émacié, etc. Quelque chose d'assez dur. Bien, tous les jours, il y avait des messages des groupes fondamentalistes chrétiens contre cette exposition, contre le musée. Et suite en partie à cette exposition, les financements du musée ont été très largement attaqués. Donc c'est resté assez tardivement, assez longtemps, une figure controversée. Mais à sa mort, il y a eu quand même un hommage national. Et je crois que, bon, là, en ça, la Suisse est peut-être assez particulière, où elle laisse une place importante à ces marginaux, en quelque sorte, aux gens qui vivent à la marge, sans les rejeter vraiment et en les célébrant, mais sans vraiment non plus les aider particulièrement.
Et est-ce que tu penses que cela pourrait être une part de provocation, par exemple, de sa part? Parce que je sais qu'il se défaisait quand même de cette image de, je dirais, de sataniste et de magie noire qu'on lui collait avec un petit peu son travail. Mais qu'en même temps, il proposait des projets. Par exemple, je sais qu'il a fait un projet assez dingo quand même, de métro souterrain sur la Suisse en forme de pentacle pour traverser tout le territoire.
Oui, il disait que s'il fallait faire un métro à travers la Suisse, il fallait qu'il prenne la forme d'une étoile à 5 branches, puisque comme ça, au centre, il y aurait des énergies cosmiques très particulières. Je crois que c'était plutôt de l'humour que de la provocation. C'était quand même un personnage assez décalé qui... sans faire de la psychanalyse de bazar, mais l'idée, c'est pas de dire qu'il était, il mettait, couchait sur papier ses démons, mais c'est quelqu'un qui avait déjà une très grande curiosité qui a justement été vers les sciences un peu ésotériques pour ces questions-là. Beaucoup de sens de l'humour. Je me souviens dans les années 60, par exemple, lors d'un vernissage où il fallait venir déguisé, tout le monde était déguisé sauf lui, qui était toujours évidemment, comme disait Chris, en costume noir, sauf qu'il avait fait ses chaussures en pain. En fait, il avait pris deux pains énormes dans lesquels il avait mis ses pieds. Et voilà, il se baladait avec des pains sur les pieds. Et donc voilà, c'était quand même un type assez décalé, un peu dans cette veine, un peu dada ou post-dada qu'on peut imaginer en Suisse. Et beaucoup plus, avec une vie un peu plus légère que ce qu'on imagine. Après, il y a aussi le suicide de sa femme au début des années 70, qui l'affecte énormément, et il commence un peu peut-être une période un peu plus introspective, et il se fait catégoriser aussi, comme étant sataniste ou faisant de l'art érotique, etc. Mais il était beaucoup plus en décalage et beaucoup moins sombre que ce qu'on peut imaginer. Et plus que de la provocation, il y avait une forme de détachement, si on veut, je crois, sur son travail et sur le monde dans lequel il était. Je crois que, comme tu le disais, le personnage de l'homme à la caméra ou la tête de caméra qui enregistre et qui redonne à voir la société de manière un peu différente. C'est vrai que c'est intéressant que ce soit une société aussi conformiste et que la Suisse qui produise des gens de ce type-là. Lui est quand même fils de pharmacien, en Suisse alémanique, à Coire, il a une éducation assez rigoureuse. Voilà, il n'est pas, c'est pas au départ d'un environnement particulièrement farfelu, il vient d'une petite famille bourgeoise et toute sa vie, il a vécu plutôt dans un environnement relativement justement bourgeois, dans des villages jumelés en plein centre de Zurich. Voilà, c'était pas quelqu'un qui était dans l'exubérance affichée pour la provocation.
Oui, quand on voit certaines images liées à l'enfance ou au bébé, on perçoit assez bien le message quand même. On se doute qu'il n'est pas en train de promouvoir l'éducation. Françoise Dolto, tout va bien dans son enfance dans les montagnes suisses. Par rapport à la prothèse, par exemple, l'apport de la biomécanique, là, par exemple, pour venir à M. Jeter, lorsqu'on voit une œuvre, par exemple, comme le Dr. Hader, on se dit qu'entre Blade Runner, de Blade Runner à Hader, je dirais, on a l'impression que vous êtes un fan ou pas un disciple, en tous les cas, mais que l'art de Giger, par exemple, pourrait avoir une certaine résonance en vous.
Well, I think like most Americans kind of came late to Geiger quite a bit after he was well known in Europe. And probably the first thing that most Americans saw of Geiger's work was the Emerson, Lake and Palmer album cover, Brain Salad Surgery. And, you know, people were impressed by that. And after that, there seemed to be like three currents of Geiger consciousness in American culture. One was obviously the movie Alien and the way his art was presented and formed the core of the movie Alien. And then the other place that Americans were seeing a lot of Geiger's artwork was in the sort of pretentious men's magazines. Bob Guccione in his Penthouse magazine was printing a lot of reproductions of Geiger's work and obviously playing off of the sort of, you know, perverted or seemingly perverted sexual nature of it. And that was sort of a way of elevating the aesthetic, cultural tone of a men's magazine. And then probably the third current that people were getting into Giger in America was sort of as a drug artist, a depiction of sort of altered and, you know, horrific states. And it was probably, you know, a contest between, say, Geiger and Ralph Steadman as to which was the great depictor of sort of, you know, the drug-addled world for Americans. And then as Americans became more familiar with Geiger's work, then we started actually seeing Geiger the man. And in that sense, because of the way, you know, especially as he grew older, he sort of, I think to a lot of Americans, he was sort of this horrific image of just how sick and twisted a European could be. And so he kind of, you know, was like this nightmare image for Americans who were like a little scared by somebody who looked like that. And he was, he seemed almost like the twin brother of Klaus Kinski or something. And that kind of weirded out a lot of Americans. So we had these streams of his artistic work coming into our culture from Europe. And some Americans took that as sort of a commentary, not just on Geiger, but on the difference between America and Europe. And so it wasn't just in little Swiss villages that people were getting sort of horrified by what he was doing and what his work seemed to represent, but it was like sort of a scary thing for Americans too. And so obviously when you're making a scary movie, then yeah, it worked tremendously. If you were caught up in the drug culture, then just like Ralph Steadman, this sort of, you know, was like a cultural touchstone for you, that your awareness of Steadman and Geiger kind of indicated that you were outside of the mainstream of America, and so, and you were gravitating towards what you saw as a different consciousness in Europe. And I certainly think that probably had, in sort of a translating from visual to written word, it probably had an influence on quite a few American writers, particularly in the science fiction field, that we were taking this as sort of a indicator visually of that, like you say, the biomechanical world. And it always had that sort of creepy, sinister, sexual tone to it. That there was always this sense of what was happening was erotically charged. That the biomechanical world was not just the way it had been depicted, say, in Robert Heinlein novels, where you wore a suit or something that gave you a torso and an exoskeleton that enabled you to do tremendous physical feats, that really the attraction and the interest and the compulsion about the biomechanical world was rooted in this sort of overarching sexual nature of what Geiger had presented.
Et lorsque vous écrivez le Dr. Rader, par exemple, est-ce que, enfin, bon, même si c'est une écriture qui date des, presque des débuts de finalement de Hans Rüdiger, vous pensez avoir, si aujourd'hui, par exemple, vous devriez réécrire le Dr. Rader, par exemple, est-ce que les prothèses mises en avant, est-ce que tout cet aspect chirurgical aurait une influence esthétique par l'œuvre de Giger, par exemple, tellement son travail s'est répandu dans nos inconscients, je dirais presque.
Very, very likely it would. I mean, if I were to write the book again, this is much more post-Geiger world that we're living in. And the influences of Geiger, we've got his entire body of work to look at, and we're much more aware of the details. And in that sense, the body modifications I talked about in Dr. Adder were essentially surgical in nature. And they didn't have, and there wasn't much of a real prosthetic element. In that sense, probably now that we have so much more of Geiger's imagery in our heads, there would be much more of a sort of lubricated, hydraulic, serpentine element going on that I just, you know, wasn't clued into. I mean, if I wrote Dr. Adder back in 1972, that would have been pretty early days of being exposed to Geiger's work. And now we have much more of a rich consciousness of it. And it would probably, yeah, have a huge impact, that things that I were just barely able to imagine in 1972, now I would have sort of a visual vocabulary, and it would have to be my job to sort of translate that into the written world. And yeah, it would make a difference, obviously.
Je ne sais pas si vous, est-ce que vous connaissez le travail de Giger autour de sa une de ses premières sculptures qui s'appelle Le Mendiant, et qui a donné naissance ensuite à un énorme travail graphique de sa part après sa période airbrush sur le mystère de San Gotardo, par exemple, il en a fait une bande dessinée, il avait un projet de film autour de ça, et ce sont des personnages uniquement constitués d'une jambe greffée à un bras. Est-ce que vous connaissez ce travail?
That one I'm not familiar with. That was an early work?
Non, c'est un travail récent puisqu'il l'a fait après sa période airbrush. Et je sais que sur les dernières années, il passait énormément de temps au lit, uniquement à dessiner sur du papier avec au stylo. Et le mystère San Gotardo, pour ma part, je pense que le fait qu'il n'ait pas rencontré le succès au niveau production... Pour ma part, je pense que ça vient du fait qu'il n'y ait pas eu d'airbrush, justement, parce que le succès de Giger vient énormément aussi de cette technique. Et là, ce sont des travaux uniquement au stylo. Et je pense que du coup, c'est un peu moins visuel. Mais c'est un travail, je dirais, récent, mais des 20 dernières années, quoi, en fait. Je pense que peut-être Patrick connaît bien ce travail. Il a peut-être exposé au musée.
Oui, je crois qu'il faut peut-être aussi. On parle d'aérographe quelques minutes, et t'en parleras mieux que moi, Gilles, puisque tu es l'un des tenants de cette technique ici en France. C'est quand même une technique qui a été très éprouvante pour lui. C'est-à-dire qu'il a, à partir des années 60 jusqu'au début des années 80, pendant 20 ans, utilisé quasiment exclusivement l'aérographe, et il s'est vraiment détruit les poumons, et il s'est vraiment épuisé. Il a été fragilisé véritablement à cause de cela, et je crois que ça a véritablement contribué d'une certaine manière à la fois à son succès, bien sûr, mais aussi à sa fragilité en tant que personne. Donc, pour le mystère du Saint-Gothard dont tu parles, c'est vrai que voilà, il dessinait, il passait son temps au lit la journée à dessiner, et il ne voulait plus vraiment se donner la peine de faire les œuvres de très grand format. Il estimait qu'il avait vraiment tourné la page de cette période-là, et que c'était trop épuisant physiquement que travailler sur ce genre de format, justement, et ce genre de technique.
Est-ce que Chris Foss, est-ce que tu dans l'œuvre de Giger, par exemple, est-ce qu'il y a eu des éléments qui auraient pu t'influencer sur ton propre travail à un moment donné?
Vous me demandez est-ce que je suis influencé par Giger?
Peut-être, par moment, des fois, un matin, tu te réveilles et puis tu te dis, tiens, je vais faire Alien aujourd'hui.
Oui. C'est bizarre, vous voyez, parce que j'ai fait des connaissances de lui il y a quelques temps, et on a été toujours très amicables, mais je crois que nous avons accepté que notre boulot, c'est complètement différent. Mon goût, c'est différent, son goût est différent, et on n'a pas vraiment aucune envie, aucun goût d'approche.
Par exemple, Patrick parlait de l'aérographe, par exemple.
Voilà.
Quand il te voyait peindre à l'aérographe, il ne te disait pas arrête de mettre de la couleur, mets un peu plus d'encre noire, par exemple.
Non, il a utilisé son aérographe. J'ai vu la photo tout à l'heure. Il a utilisé son aérographe pour agrandir la sculpture, pour agrandir la forme, des trucs comme ça. Et par contre, moi, j'utilise l'aérographe pour. Dans une espèce de brume, une espèce d'espace. Et voilà, avec la figure-là, il a utilisé l'aérographe pour exagérer les formes, pour faire plus rondes tous les trucs comme ça. Et je n'ai pas utilisé l'aérographe beaucoup sur la forme de les vaisseaux. Normalement, j'ai utilisé l'aérographe pour le fond. Et voilà, ça c'est ce tableau-là. Il n'a pas utilisé le. Oh, c'est parti. Mais ce tableau-là, qui vous a juste montré tout à l'heure, mon habitude, si c'était moi qui. Voilà, ça c'est l'aérographe. Il utilise pour exagérer la forme, tous les petits points comme ça. Et par contre, moi, j'utilise l'aérographe pour faire le fond, les trucs comme ça. Et je suis très fasciné par son technique. On a parlé beaucoup sur ça. Mais c'était complète. Il approche un petit peu une espèce de sculpture, même avec les tableaux. Il ne fait pas vraiment un tableau. C'est toujours de sculpture, même si c'est un tableau sur sculpture.
Oui, en fait, il a une technique un peu, il a un usage, on va dire, un peu aberrant de l'aérographe, hein, puisque normalement l'aérographe, comme disait Chris, c'est pour des grands formats, mais sur lesquels on peut étirer, si on veut, les choses et faire des fonds. Et Guiguerre, en fait, utilisait l'aérographe pour le détail. Et on le voit aussi, il utilisait à Hollywood l'aérographe pour les croquis, ce qui est complètement étrange plutôt que de dessiner à la main. Et donc voilà, il a une approche de cet objet qui est presque antagoniste, si on veut, à l'usage de départ qui lui est attribué.
Oui, il se l'est approprié, mais j'ai l'impression, moi, que quelle que soit la créature, par exemple, qu'il a eu à travailler, à chaque fois, il se l'est approprié dans son propre univers, quoi. Les interventions qu'il a fait, par exemple, sur des séries comme Poltergeist ou autre, tout à coup, ça devenait du Giger. Même si ça n'a pas eu le succès d'Alien ou autre, même Spaces, par exemple, n'importe quelle créature devenait du Giger juste parce qu'il l'avait, je dirais, réenrobé d'aérographe, quoi, en fait, un petit peu travaillé de cette manière-là, un petit peu sur le flou. Bon, moi, je sais que sur ces images, il y a une attirance énorme au niveau des détails sur le travail entre le net et le flou, sa gestion des caches, sa gestion des pochoirs. Je pense d'ailleurs peut-être que c'est par la présence de ce travail presque uniquement noir et blanc qu'il a pu se répandre autant, par exemple, dans le milieu du tatouage. Parce que sinon, je vois pas d'autres explications. Même si effectivement l'image, l'aspect biomécanique, tout ce côté charnel est important dans l'attirance du public vers son travail, mais je pense que le fait que le travail soit uniquement noir et blanc, ça a dû jouer sur ce succès. Toutes les peintures qu'il a pu faire en couleur ne sont pas des œuvres en couleur. Quand on voit les séries Back to Mother, par exemple, c'est juste un noir et blanc avec un voile rouge par-dessus. Il n'avait pas une gestion très pertinente de la couleur, je trouve.
En tout cas, ce qui est assez étonnant, c'est de, comme tu le disais, en effet, son œuvre est à la fois très reconnaissable et omniprésente, et dès qu'il s'approprie d'un sujet, il y amène une esthétique très reconnaissable, mais en fin de compte, dans les films, ce qu'il en reste, et ça c'est assez remarquable, c'est à peu près rien chaque fois. C'est-à-dire que même dans Alien, même si l'extraterrestre est évidemment un élément essentiel, l'élément primordial, principe, on va dire, du film, si on voit le dernier film, le prequel de Alien, comment il s'appelle, Prometheus, ou je sais plus comment il s'appelle, ce film de Cameron, en fait, c'est là-dedans, en fait, où on voit toutes les œuvres soudain de Guiguerre prendre vie. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas utilisé dans Alien dans les années 70 est utilisé dans ce nouvel opus. Et moi, ce qui m'étonne, c'est ça, c'est à quel point il y a eu une influence sans que l'œuvre elle-même n'ait été très présente, si on veut, dans les masses médias, auprès du grand public. C'est-à-dire que c'est comme si, véritablement, et c'est pour ça que Kelly mentionnait Bob Guccione et Penthouse, qui a aussi, par ailleurs, et Chris me le rappelait, était le premier à donner du travail à Chris Foss, c'est comme si c'est vraiment dans les milieux, juste en dessous de la surface, qu'il a été le plus présent et qu'il a réussi à pénétrer, si on veut, dans le mainstream à travers cette omniprésence dans ce milieu alternatif.
Alors on va pas tarder à terminer quand même. Je vais vous demander à chacun d'entre vous, d'après vous, est-ce que Giger est unique et qu'est-ce qu'il pourrait en rester ? Parce qu'il va forcément en rester quelque chose, mais en ayant un petit, je dirais, une petite projection prémonitoire, qu'est-ce que, d'après vous, il en restera ? Monsieur Jeter, for
example. His influence on science fiction movie and graphic art character design, the design of the scariest thing you can imagine, that's going to endure for a long time. I mean, basically, almost every scary creature is either a continuation of Giger's work or a variation on it or a rejection of it in some way. You know, let's try and do something different from what Giger did in Alien. So that's just going to be the big dominating force for a long time. You're going to see his influence, I think, in the tattoo and body modification world for a long time to come, partly because of the sort of overlap between his work, the tattoo world, and, say, the rock and roll, heavy metal crowd, that essentially nothing really radiates a sort of rejection of mainstream culture to the same degree as, say, Geiger's work does. I mean, if you're into Geiger's work and you're putting it on your body, you are stigmatizing yourself and really signaling to the world that you're not, you know, a goody-goody, that you're some kind of rejection of the mainstream culture. And so that's going to be a continuation for a long time to come, just because he so successfully tapped with an erotic charge that notion of rejecting the mainstream world and coming up with the perfect depiction of that mental state that is so opposed to the mainstream world, and it has this erotic sexual power to it. We're not getting away from that for a long time to come, in my opinion.
Can I just say... Oh,
go ahead.
Est-ce que je peux dire juste une autre chose aussi? C'était très intéressant le discours aujourd'hui, et c'est vrai, il a toujours travaillé juste en noir et blanc, juste en noir et blanc, mais il a une association avec Penthouse, comme moi, j'ai commencé avec Penthouse, et depuis cette époque-là, moi j'ai travaillé seulement en noir et blanc aussi, et seulement les choses érotiques. Mais j'ai juste en train de penser, tu vois, c'est juste arrivé dans ma tête, je crois, beaucoup de choses qui arrivent, arrivent grâce à le temps quand ils sont fabriqués. Et si Elia a désigné Giga pour un tournage avant la Deuxième Guerre, il n'est pas reçu. Personne ne peut savoir pourquoi c'est comme ça. Si il a désigné Elia, mais maintenant, dans les années 2015, peut-être ça c'est très bizarre. C'est-à-dire, je dois parler en anglais, excusez-moi. He was really a man of his time.
Moi, j'ai beaucoup de peine, en fait, à juger de la pertinence aujourd'hui encore de cette œuvre ou pas, parce que je le connaissais personnellement et que c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, mais aussi parce qu'il est devenu tellement une figure qui est passée dans tous les arts, hein, comme tu l'as mentionné, qu'aujourd'hui, on n'arrive plus vraiment... Enfin, je pense qu'il faudrait demander à un historien de l'art, véritablement, de s'approcher de cette œuvre et de la valoriser en dehors, en partie, de ce contexte purement d'une iconographie populaire. Parce que elle ne suffit pas, en fait, à analyser son œuvre. Je pense qu'il faut le réhabiliter en tant qu'artiste contemporain, en tant qu'artiste, qu'un grand peintre surréaliste. Et aujourd'hui, je pense qu'il risque de souffrir le même sort que Magritte, par exemple, ou des auteurs, des artistes de ce type-là, qui finiront peut-être sur des posters dans les chambres d'adolescents, et c'est tout. Et je pense que ça serait vraiment ce qui pourrait lui arriver de pire, et je pense qu'il devait voir à ça avec un peu d'effroi, même s'il avait pas mal de recul. Et comme il est grand temps de réhabiliter la période de vache de Magritte, que vous ne connaissez sans doute pas, justement, eh bien, je pense qu'il est, il est grand temps de réhabiliter, justement, les autres types d'œuvres de Giger, son travail. Par exemple, il avait un très grand jardin qu'il a complètement réhabilité, où il avait, justement, ce train fantôme. Il avait un train, il pouvait traverser sa maison en train. Enfin, c'était complètement dément chez lui. Il avait une forme de folie brute et de vision du monde qui dépasse simplement le fait d'avoir fait des couvertures de disques ou d'attroyés dans le domaine du film. Et je pense qu'il faudra à un moment soit préparer une exposition, une publication critique et analyser cette œuvre de façon un peu plus sérieuse qu'elle a été faite jusqu'à présent.
Oui, c'est vrai qu'il a, une approche de son art presque d'une manière de l'art brut, en fait. Quelle que soit, c'est la technique et c'est l'opportunité de la commande cinéma et autres qui en ont fait ce qu'il a été, mais lui-même, je pense, avait plus une approche d'artiste art brut à jaillir, quoi, comme ça, sans réflexion au départ, juste cet inconscient.
Je crois qu'il faut rappeler simplement que l'art, ce n'est pas l'image de l'art, hein, et que le projet artistique de H.A. Giger, ce n'est pas l'iconographie telle qu'elle est vue, simplement utilisée aujourd'hui.
C'est à espérer qu'un établissement nantais ou autre fasse la réhabilitation de Hans-Rudi Giger un de ses jours par une belle rétrospective. Ce serait amplement mérité. Je vais à présent vous remercier, messieurs. et remercier M. Hans Rüdiger pour tout ce qu'il nous a apporté et tout ce qu'il a pu faire naître.
Bon, j'aimerais juste mentionner une chose aussi, faire un hommage de une seconde et demie à Patrick James Woodruff, qui était un ami aussi de Hans Rüdiger, qui a fait l'affiche des Utopiales 2001 ou 2002, je ne me souviens plus, et qui est mort également très peu de temps après Hacha Giger, au même âge, et qui était un des très très grands peintres fantastiques, Patrick James Woodruff, et qui nous a quittés aussi cette année. Voilà, une pensée pour lui.
On a eu la chance de le voir peindre en direct sur une fresque, justement, pendant les Utopiales aussi, Patrick Woodruff.
Il est encore vivant, non ?
Il vient de mourir, justement.
Ah bon ?
Oui.
Bon. Tout a une fin. Merci, messieurs, dames.